Depuis quelque temps, on est dans l'étude du livre de Timothée, première épître de Paul à Timothée, au chapitre 3. On est rendu, et je vous en propose de faire la lecture des versets 8 à 16. 1 Timothée, chapitre 3, versets 8 à 16. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Prions Dieu. Merci Seigneur notre Dieu pour ta parole, parce qu'elle est la vérité, parce qu'elle est, tu l'as préservée au fil des siècles pour qu'on puisse y avoir accès, Seigneur, et avoir instruction. Seigneur, on te prie pour que tu nous aides à diriger, à conduire cette Église, Seigneur, d'une manière qui va t'honorer, qui va glorifier ton nom, qui va produire du fruit, et cela pour l'éternité, par Jésus-Christ. Amen. Pour qu'une vigne prospère et porte beaucoup de fruits, il y a un travail essentiel du vigneron, qu'il doit créer un support pour la vigne. La vigne, si on la laisse sans support, eh bien, les fruits vont être par terre, vont se gâter simplement parce qu'ils sont par terre. Alors, le vigneron taille et fixe les meilleurs sarments sur ce support, bien entendu. C'est pas le support qui porte le raisin, qui donne le raisin, c'est la vigne, l'organisme vivant. Mais le support permet à la vigne de se développer et de produire des fruits. De même, l'Église est un organisme vivant qui grandit spontanément quand elle est en bonne santé, quand la parole est annoncée fidèlement. Pourtant, c'est un organisme structuré également. Par la prédication de l'apôtre Paul, des églises ont vu le jour. Mais par la même prédication de l'apôtre Paul et par ses enseignements, il a établi des anciens, il a établi des diacres dans les églises pour la structurer, pour lui donner une forme. Le Saint-Esprit donne à l'Église cette vie portée par chaque chrétien. Chacun d'entre nous est témoin de la grâce de Dieu. Et le Saint-Esprit lui donne aussi sa structure, ce qui fait de la conduite ou de l'organisation de l'Église un domaine très spirituel. Il ne faut pas croire que ce domaine-là est moins spirituel que l'évangélisation ou quoi que ce soit d'autre. Paul a rédigé 1 Timothée environ 30 ou 35 ans après le début de l'Église à Jérusalem, à Pentecôte, et à peu près 12 ans après l'implantation de l'Église à Éphèse. À ce stade-ci de l'Église, elle a tellement grandi, elle s'est tellement développée qu'il faut maintenant donner et nommer officiellement des anciens et des diacres qui devront donner l'exemple en matière de vertu et de service spirituel. Alors ce matin, je vous propose de regarder, pour bien fonctionner et se conduire dans l'Église, l'Église doit se doter de diacres et on va voir qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs qualités, comment les choisit-on. Et puis enfin, pourquoi est-ce si important? Alors, tout d'abord, qu'est-ce que font les diacres? Qu'est-ce qu'ils sont appelés à faire? L'Écriture ne nous donne pas de liste de tâches que des diacres. Mais la définition du mot diacre ou diaconéo, ça signifie servir. Et donc, on sait de cette manière que le diacre, sa responsabilité, c'est de servir. en Actes chapitre 6, dans l'église de Jérusalem, devant l'ampleur du ministère, ils se sont choisis des hommes pour accomplir un service particulier. Le service particulier à ce moment-là, c'était de faire la distribution de nourriture aux veuves. Et bien qu'ils ne soient pas nommés diacres, des personnes de confiance ont été choisies pour accomplir ce service. Mais est-ce le privilège des diacres uniquement que de servir? Ou est-ce que c'est la responsabilité de chaque croyant? Bien sûr, c'est la responsabilité de chaque croyant. Les anciens, les pasteurs servent, les apôtres servent, Jésus ont servi, Jésus lui-même a servi. Il dit, lequel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert, comme un diacre. Je suis celui qui sert. Ainsi, nous sommes tous appelés à servir puisque nous sommes tous appelés à imiter Jésus-Christ. En Galates chapitre 6, verset 2, il dit « Portez les fardeaux les uns des autres ». C'est ce que nous devons faire, chacun ici. En Éphésiens 4, il dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants ». C'est ce que nous devons faire, manifester de la compassion les uns envers les autres, être bons, s'aimer. En 1 Pierre chapitre 4, verset 9, il est dit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres ». C'est aussi ce que nous devons faire. Tous, nous sommes appelés à servir. L'Église a besoin de personnes pour faire des travaux, pour entretenir ses locaux. L'Église a besoin de personnes pour faire un repas pour les ouvriers qui travaillent dans ses locaux. Une autre personne pour héberger quelqu'un, un visiteur, aider une femme seule dans l'entretien de sa maison, faire un repas pour une personne malade ou pour une famille en difficulté, aller chercher une personne à raccompagner pour qu'elle puisse entendre la parole de Dieu, ça c'est le ministère des navettes. Bref, rendre une multitude de services qui manifestent la compassion. L'Église a besoin de quelqu'un pour l'aspect pratique de ses rencontres, ouvrir, chauffer la salle, servir un café, accueillir les gens, diriger les gens pour qu'ils se garent et pour qu'ils arrivent. Mais aussi, on a besoin de techniciens pour que chacun entende et voie. On a besoin de gens pour ranger la salle de culte après un repas, mais aussi quelqu'un qui va distribuer des vêtements ou distribuer de la nourriture à des gens en difficulté. On se rend compte, en fait, que toutes ces tâches-là, ce n'est pas des choses extraordinaires. Probablement jamais aucun n'aura une médaille pour avoir accompli ce genre de choses. Mais aussi on reconnaît que toutes ces choses sont d'une extrême importance au regard de Dieu. On a besoin de gens comme cela. Mais quand et nous sommes tous appelés à cela, mais il y a des gens qui prennent ces choses très au sérieux et qui sont souvent ceux qui servent leurs frères, ceux sur lesquels on peut s'appuyer, ceux sur lesquels on va toujours se tourner. Ils assurent avec fidélité. Ils s'attendent à ce que tout soit en ordre, que personne ne soit en difficulté. Il y a un service pour tout chrétien, c'est sûr. Mais il y a aussi un service spécial. On se rend compte que des personnes développent cet esprit de service. Elles montrent un zèle particulier, une fidélité dans leur service, de l'humilité. C'est-à-dire, quand elles ont servi, vous n'avez pas l'impression de leur devoir quelque chose. De la discrétion dans les services qu'elles rendent aux frères et aux sœurs et en dehors de l'Église. Calvin, lorsqu'il était à Genève, a dit que les diacres de l'Église genevoise faisaient tout. Ils achetaient des vêtements et du bois de chauffage. Ils fournissaient des soins médicaux et ils étaient souvent présents lors des accouchements. Ils organisaient des gardes pour les enfants des malades. En gros, ils essayaient de répondre à tous les besoins. Les diacres doivent effectuer toute tâche qui leur est assignée par les anciens ou que requiert le bien de l'assemblée. Ce sont des modèles de serviteurs sur lesquels l'Église s'appuie. Et c'est pourquoi ils doivent être reconnus dans leur fonction. Ça signifie très clairement pour nous que nous devrions reconnaître de plus en plus de personnes responsables de ministères, des personnes actives qui manifestent cet esprit de service. Alors, quelles sont leurs qualités maintenant? Après avoir étudié les qualités spirituelles requises pour les anciens dans les versets 1 à 7, Paul passe maintenant à celles requises pour les diacres. Les normes qui concernent les diacres ne sont en rien inférieures à celles des anciens. Si les anciens qui dirigent et les diacres qui servent assument des fonctions différentes, les qualités spirituelles requises dans les deux cas sont essentiellement les mêmes. La barre est assez haute pour les uns comme pour les autres. La différence tient à ce que l'ancien doit être propre à l'enseignement, ça c'est le verset 2, ce qui implique une connaissance plus grande des Écritures, une certaine maturité spirituelle et puis une expérience plus importante certainement. Lorsque Dieu se choisit des gens pour servir son Église, il les sélectionne parmi ceux dont le cœur est droit à ses yeux. Or, ce qui compte pour lui, ce ne sont pas les talents ou les aptitudes extraordinaires, mais bien des vertus spirituelles. Quand Dieu a choisi un roi pour Israël, la Bible dit que on lui a présenté plein d'hommes, tous plus grands, plus forts, plus beaux les uns que les autres. Mais il a dit, Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et ça, ça n'a pas changé. Et Dieu, il regarde à nos cœurs pour savoir si on est apte à son service. Dans les versets 14 et 15, il est dit, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » J'aime beaucoup ce passage. Paul donne l'objet de son épître ici. Il est en train de dire, « voilà ce que je suis en train de t'écrire. » Et c'est pas simplement comment il faut se conduire, c'est pas simplement comment choisir les anciens et les diacres dans le chapitre 3, mais c'est que la culture de la grâce que l'on a vue dans le chapitre 1, le rôle de l'homme et de la femme dans le chapitre 2, et puis on verra encore dans le chapitre 4, 5 et 6, toute la conduite de l'Église. Mais il rappelle en tout premier lieu que l'Église appartient à Dieu. Tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. Et cette vérité, elle est tellement importante. C'est l'Église du Dieu vivant, c'est-à-dire qu'il n'a pas abandonné ses prérogatives. C'est son Église, il en est la tête, il la dirige, il la voit, il en prend soin. En acte 5, la Bible raconte comment Dieu a lui-même fait mourir un couple, Ananias et Saphira, qui pensaient pouvoir tromper l'Église sur une question d'argent. C'est un châtiment exemplaire qu'il donne au commencement de l'Église de Jérusalem pour nous rappeler que c'est l'Église du Dieu vivant. C'est son Église. Ainsi, dans nos responsabilités, dans la conduite de l'Église, ne faisons pas comme si Dieu était mort, aveugle et sourd, incapable d'intervenir, mais que cette pensée ne nous quitte pas afin que nous ayons la bonne attitude dans notre service. Le fait que l'Église est celle du Dieu vivant devrait nous donner la bonne attitude. C'est aussi merveilleux, cette pensée qu'il est vivant. Parce que s'il est un Dieu saint et juste, il est aussi un Dieu qui est plein de miséricorde, gracieux, qui pardonne et relève et qui nous encourage, nous pécheurs, à le servir. Dans le verset 8, il est dit que les diacres doivent être honnêtes. Ça, ce sont les caractéristiques personnelles Les diacres doivent être honnêtes. Ça signifie ici ne pas prendre à la légère les choses de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un de fiable, éloigné de la duplicité, hein, sans hypocrisie, mais plutôt cohérent entre ce qu'il vit et ce qu'il fait. L'intégrité, l'honnêteté. Et puis il est dit éloigné des excès du vin, d'un gain sordide. Les diacres ont souvent, par leur fonction, la responsabilité de tenir les cordons de la bourse. Ils doivent distribuer de l'argent, prendre soin les uns des autres. Ils sont réactifs dans ce domaine. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'être intègres. Et puis, il est dit aussi au verset 9, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Et ça, c'est l'aspect de leur vie spirituelle. Non seulement ils croient l'évangile, ils croient la vérité, hein, le mystère de la foi, mais surtout ils s'y conforment. Et la conscience nous est donnée comme par Dieu à chacun d'entre nous pour être une faculté qui nous prévient l'instant où on va violer la loi de Dieu, lorsque l'on va violer sa loi morale. Et du coup, nos consciences, soit elles nous accusent, hein, quand on fait mal, soit elles nous défendent, hein, quand on fait bien. La conscience produit la culpabilité, la honte, la peur, le désespoir même, en raison d'un péché commis, ou bien l'assurance, la paix, la joie, en raison d'une attitude juste. Le diacre doit avoir une conscience pure, purifiée. Et puis, verset 11, il dit, « Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. » Alors, sont-elles les épouses des diacres ou des diaconesses? C'est la grande question. Ça fait couler beaucoup d'encre. Je crois qu'il s'agit des diaconesses. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que il n'y a pas ici de pronom possessif. Il ne dit pas « leurs femmes doivent être », mais « les femmes ». Deuxième raison, c'est que Paul n'a pas évoqué de qualité requise pour les femmes des anciens. Alors pourquoi en exigerait-il les femmes de diacres? Et la troisième raison, c'est que l'apôtre Paul n'emploie pas le mot « diaconesse » ici, parce qu'à l'époque de l'écriture du Nouveau Testament, le mot « diaconesse » n'existe pas. Le mot seul existe un masculin. Et c'est pour ça qu'il est obligé de dire « les femmes » en parlant des diacres femmes. D'ailleurs, en Romains chapitre 16, au verset 1, Paul fait la recommandation d'une certaine Phoebé, diaconesse de l'église de Sancré. Dans le mot grec, ici, c'est un masculin. Et d'ailleurs, la Bible Semeur traduit « Je vous recommande Phoebé, diacre de l'église de Sancré ». Ceci dit, les épouses des anciens et des diacres sont certainement des femmes qui devraient satisfaire les qualités requises pour être des diaconesses, puisque les anciens et les diacres doivent bien diriger leur maison. Les mêmes qualités sont requises pour les femmes. Elles doivent être honnêtes, non médisantes, elles doivent savoir tenir leur langue. Comme les anciens et les diacres, elles doivent être sobres et fidèles en toutes choses. Alors, comment les choisit-on maintenant? Eh bien, c'est le verset 10 qui nous dit ici, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. L'épreuve ici consiste à une évaluation du service d'un croyant. Puisque tous les croyants servent, eh bien on va pouvoir observer chez les croyants une qualité de particulière, une fidélité, et puis le caractère avec lequel on doit servir. Il tient ses engagements, il est fiable, il accomplit son service humblement, joyeusement, entièrement, fidèlement. Mais on ne peut juger au fond que ce que l'on sait et ce que l'on observe chez quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui voit au fond les cœurs. Et la Bible dit ici, et s'ils sont sans reproche, eh bien, ils vont pouvoir exercer. Être sans reproche, ici, ce n'est pas être exempt de tout péché. Nul d'entre nous ne serait qualifié dans ce cas-là. Non, c'est cette notion d'être... Leur vie ne doit pas être entachée par quoi que ce soit, rien pour lequel on pourrait les accuser, les poursuivre en justice ou les disqualifier. Bien entendu, chacun reste un pécheur et l'Église doit apprendre à pardonner sans la moindre hésitation à une personne qui se repent avec sincérité. Par contre, le fait de les rétablir immédiatement dans leur fonction affaiblit la norme à laquelle Dieu souhaite que les dirigeants se conforment. Et c'est pour ça que les gens qui ne satisfont plus les exigences de Dieu, ils sont disqualifiés pour le service. Ça ne veut pas dire qu'ils seront disqualifiés pour toujours, mais ils ont besoin de montrer à nouveau de la fidélité, à nouveau les qualités morales. Mais concrètement, faut-il des élections ? Qui se présente ? Quelle majorité ? La Bible ne nous renseigne pas sur ces questions. Et du coup, ça nous offre un certain nombre de libertés dans ce domaine. Depuis des années, à l'EBTM, nous avons élu les diacres un peu sur le mode d'acte 6, où les apôtres, devant faire face à un problème organisationnel, ont dit « Choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage ». Et les membres ont donc considéré l'Église dans son ensemble et ont choisi sept personnes qui satisfaisaient les critères donnés. Je crois que cette manière a permis à notre Église d'identifier dans son sein des personnes qui avaient les qualités requises. Néanmoins, cette manière de faire n'est pas normative. Et les diacres pourraient être proposés par le conseil d'anciens en vue d'une tâche spécifique et soumis au vote de l'Assemblée. C'est ce que l'on fait pour les anciens, d'ailleurs. L'une des difficultés dans une Église qui grandit, notamment au-delà de plusieurs centaines de personnes, c'est que tout le monde ne connaît plus tout le monde. Ainsi, ce sont les responsables qui deviennent les plus aptes à identifier les serviteurs. Ils pourraient suivre une formation de diacre en vue d'être soumis ensuite à l'approbation de l'Église. S'ils sont identifiés dès le début de leur formation, alors l'Église dans son ensemble peut les examiner pendant cette période de formation. Et de ce fait, lorsqu'ils doivent être élus, eh bien l'Église a un vote qui est éclairé. Enfin, pourquoi est-ce si important ? Pourquoi est-ce si important d'avoir des diacres ? Dans les versets 15 et 16, il dit ici « Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Lorsque un père ou une mère confie une tâche à un enfant, que ce soit mettre la table ou balayer, ils ont en vue deux choses principales et puis une troisième un petit peu plus subtile. La première chose, ils ont en vue le service lui-même. Il faut qu'on mange et il faut que quelqu'un mette la table. Et quand la famille grandit, il y a un moment où on se rend compte que... ça ne peut pas reposer sur une seule personne. Il faut mettre la table et il faut aussi balayer après. Donc c'est le service lui-même. Et ça, c'est parce qu'on poursuit le bien de la famille. Eh bien, dans l'Église, il y a un travail à accomplir. L'Église a besoin d'ouvriers pour accomplir le ministère. Et au fond, plus il y a d'ouvriers et plus le ministère de l'Église peut porter du fruit. La deuxième chose principale, c'est la formation du caractère et l'acquisition de compétences. Et ça, c'est le bien de l'enfant que l'on poursuit. Simplement, il doit mettre la table, ça veut dire on lui fait confiance. Et puis, il apprend à compter pour qu'il y ait une fourchette et un couteau pour chacun. Et puis, il apprend. Pareil avec le balai. mais on forme encore plus son caractère. Parce que ce qu'on attend, c'est qu'il le fasse avec joie, qu'il le fasse parfaitement. Le balai, ce n'est pas juste passer le tout sous le tapis. Hein. Non, c'est le faire entièrement, correctement. Et donc là, on poursuit l'œuvre de son caractère. En servant dans l'Église, on développe des dons, on perfectionne un caractère. De sorte qu'on peut confier, on peut nous confier de nouvelles responsabilités. Et ça, ce n'est pas étonnant qu'ils disent ici au verset 13, « Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. » Ils inspirent le respect, ils inspirent la confiance à ceux qu'ils servent. Ainsi, ils pourront exercer un ministère d'une plus grande portée. C'est ainsi que Étienne et Philippe, qui étaient choisis parmi les sept à Jérusalem, se sont retrouvés être des prédicateurs de l'Évangile. Hein, l'un est devenu le premier martyr. Et donc, les diacres qui s'acquittent bien de leur service aujourd'hui sont potentiellement les anciens de l'Église de demain. Et puis, troisièmement, quand un père, une mère confie une tâche à son enfant, il a en vue une chose, une autre chose. Parfois, elle ne nous apparaît pas aussi clairement que les deux premières. Mais c'est la beauté d'être une famille. Si on demande à quelqu'un de passer le balai ou de mettre la table, c'est parce qu'on le reçoit dans la famille, parce qu'il est regardé comme un membre de la famille. C'est un privilège que les invités n'ont pas. Ça fait sourire quelques-uns, peut-être. Mais c'est une grande vérité, ça, néanmoins. Dans l'Église, le service accompli établit le fait que je suis membre de cette famille. Et c'est ça qui glorifie Dieu. L'Église, elle est la colonne et l'appui de la vérité. C'est comme un phare, au fond, pour que la lumière brille dans les ténèbres et puisse attirer à elle des naufragés, il faut qu'elle soit visible de loin. Et pour qu'elle ne soit pas renversée facilement, il faut un appui solide, des fondations. Eh bien, l'Église sert de fondation et de colonne pour montrer la vérité. Le monde voit la vérité dans l'Église. La Bible dit que Dieu est vivant. Alors, quand on vient dans l'Église, nous devons montrer une Église qui vit, qui aime, qui secourt, qui montre de la compassion, de la bonté. Une Église qui grandit. Il faut que les vérités de l'Évangile soient traduites de manière concrète pour qu'elles puissent être reçues, acceptées et crues par ceux qui nous visitent. La vérité, c'est l'Évangile. Et l'apôtre Paul, il termine ce chapitre 3 avec ce verset 16 qui est d'une grande beauté. C'est probablement un poème. Et voilà ce qu'il dit. « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand ou le mystère de la foi est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Dieu a été manifesté en chair, dans la personne de Jésus-Christ. On a vu Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus lui-même. Jésus est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour nous. En imitant Christ et en servant notre prochain, nous rendons cette vérité de l'Évangile accessible à ceux qui nous visitent. Et puis il est dit aussi qu'il a été justifié par le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il a été déclaré juste. Dans toute sa vie, une vie parfaite, exempte de tout péché, ce que le Saint-Esprit a attesté en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Si nous menons une vie transformée, une vie de disciple de Jésus-Christ, alors on manifeste l'efficacité de l'Évangile. Et puis, vu des anges, les anges ont été témoins de tout cela. Ils ont vu son incarnation, ils ont été les témoins de croix, ils sont venus fortifier Christ juste avant la crucifixion, sa résurrection. Ce sont eux qui annoncent aux femmes que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et puis même son ascension. Ils disent « Ce Jésus que vous avez vu montant au ciel reviendra de la même manière, attestant ainsi que tout s'est fait selon le dessein de Dieu. Nous sommes observés par des anges. Ils cherchent à plonger leur regard et à comprendre les vérités de l'Évangile simplement en nous voyant vivre. » Et en nous voyant vivre, ils voient des pécheurs qui ont été transformés par la grâce de Dieu, changés à l'image de Jésus-Christ. Et juste, ils s'émerveillent. Si les anges le font, les visiteurs qui vont venir et qui vont goûter à la bonté, qui vont goûter à l'amour, qui vont goûter à la compassion, à la générosité, vont se laisser toucher par ce même évangile. Évangile qui a été prêché aux nations. Les événements ont eu lieu à Jérusalem et pourtant aujourd'hui dans le monde entier, l'évangile a été entendu. L'Église s'est formée d'hommes et de femmes de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Jésus est le sauveur du monde entier. Et en servant Jésus-Christ, dans cette Église, auprès comme au loin, nous annonçons que l'Évangile est pour le monde entier. Le fait de représenter ici plusieurs nations, plusieurs ethnies, ça montre que l'Évangile marche. Dans l'instant où toutes ces ethnies forment un peuple nouveau, le peuple de Christ, et le monde a tellement besoin de voir cela, se retrouver au milieu d'une famille, comme on l'a dit tout à l'heure, qui nous aime. Toutes les barrières ont été enlevées parce que Jésus-Christ est venu pour le monde, pour sauver le monde. À nous de montrer cela à ce monde. Et le monde a besoin de voir cela. Et puis cru dans le monde. Oui, c'est ça. C'est par la foi que l'on reçoit son salut. Simplement, pour prix de notre foi. Simplement, la démonstration a été faite devant nos yeux et on a cru. Et puis, élevé dans la gloire. Jésus a été élevé dans la gloire. C'est pour cette œuvre de rachat merveilleuse qu'a été élevé dans la gloire pour l'éternité, montrant que la justice de Dieu est satisfaite, pleinement satisfaite. Que Dieu accepte dans sa présence le pécheur qui croit en Christ. Voilà notre message. Voilà le message que l'on doit vivre. Celui qui doit être rendu accessible à chaque visiteur dans ces lieux. Mais pas simplement dans ces lieux, hein, dans nos vies, la manière dont on est dans notre famille, la manière dont on est dans notre travail. Voilà notre raison d'être. Voilà pourquoi l'Église, Jésus est venu non pour être servi, mais pour servir, diaconéo, et donner sa vie en rançon. Voilà pourquoi on choisit des diacres, et ils doivent servir comme Christ a servi, et montrer ainsi l'Évangile par leur vie. Alors simplement pour conclure, cultivez, je vous en prie, cultivez ces qualités et servez Christ, parce que Christ vous a sauvé en se faisant diacre pour vous. Faites-vous diacre pour vos frères, faites-vous diacre pour le monde, pour que le monde croie. Voilà le modèle chrétien de la grandeur. Jésus a dit, on l'a lu tout à l'heure, vous voulez être le plus grand ? Qu'il soit serviteur de tous, qu'il soit diacre de tous. Notre service en faveur des autres est la preuve que l'amour de Dieu est opérationnel dans notre vie. Soyez des diacres. Cherchez à être et à satisfaire les qualités de diacre. Repérez-les chez vos frères et sœurs et choisissez-les pour vous servir et pour vous représenter et puis pour être des témoins, des modèles pour tous les frères. Que Dieu nous bénisse.